Please be seated.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
Good morning, ladies and gentlemen, brothers.
Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le hall du siège de l'Église pour cette conférence historique. Et nous sommes reconnaissants que vous soyez ici et pour tout ce qui a été fait pour préparer les obsèques du président Monson et tout ce que vous avez écrit nous aide à nous souvenir de ce grand homme. Nous souhaitons aussi la bienvenue au Collège des Douze, aux autorités générales, aux membres des familles et tous ceux et les dignitaires qui sont assis dans l'Assemblée. Nous souhaitons une bienvenue particulière à la famille du président Monson. Ils aimeraient dire bonjour.
Yeah. Looks like a wonderful family reunion.
Ça, on dirait une merveilleuse réunion de famille. Le dimanche 14, dans les salles hautes du temple, frère Nelson a été mis à part par le Collège des Douze comme président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il y a une heure, ses conseillers, lui, se sont adressés aux membres de l'Église en diffusion depuis le temple de Salt Lake City. Et cette conférence de presse sont traduites en 29 langues dans le monde entier. Et dans des chaînes de l'Église et des médias. Frère Nelson est le 17e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Après 43 ans en tant que membre du Collège des Douze, il préside une Église qui compose 16 millions de membres dans pratiquement tous les pays du monde. Il a visité 143 de ces pays, dans le monde entier. Frère Hawks a été appelé comme premier conseiller et Henry Eyring comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ils ont été appelés dimanche dans le temple de Salt Lake City. Marcel Ballard est le président suppléant du Collège des Douze. Les détails sur leur biographie et sur eux-mêmes ainsi que sur les membres du Collège des Douze sont disponibles sur le site Mormon Newsroom. Nous allons revoir le déroulement de cette présidente. D'abord, les membres de la première présidence vont s'adresser à nous. D'abord, Frère Nelson, ensuite ses conseillers. Puis, ils prendront des questions des médias. Mais comme nous avons des limites de temps et comme nous voulons que les médias du monde entier soient représentés, et donc les médias ont été choisis à l'avance. Frère Nelson.
Dear brothers and sisters.
Chers frères et sœurs, nous venons du temple de Salt Lake, d'où ont été diffusés tous les sentiments d'affection pour le président Thomas Monson, avec une gratitude profonde pour sa vie de service au Seigneur et au peuple du monde. J'ai également annoncé qu'il y a deux jours, mes frères du Collège des Douze Apôtres ont posé les mains sur ma tête pour m'ordonner et me mettre à part comme président de l'Église. Cela a été une expérience sacrée, remplie d'humilité. Les prières et des vœux de réussite sont venus de près et de loin. C'est pourquoi je suis reconnaissant. Nous vivons à une époque, l'époque la plus vibrante de l'histoire du monde. Je me lève chaque matin avec enthousiasme pour les aventures que cette journée apportera. Et j'espère que vous ressentez cette même exubérance pour le don de la vie. Bien que notre monde soit rempli de défis graves, je suis optimiste pour le futur et j'ai confiance dans la bonté fondamentale de l'humanité. Je m'émerveille à la main tendue, pleine de compassion, que nous voyons constamment de la part des dirigeants et membres d'autres confessions et de plein de bonnes personnes, de bonne volonté partout, qui s'efforcent de réduire la souffrance humaine partout où on la trouve. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui vivent pratiquement dans toutes les nations du monde, se soucient profondément de la famille humaine. L'Église continuera à contribuer ses ressources et de la main-d'œuvre pour apporter l'aide dans les régions qui en ont besoin et dans des périodes difficiles. De plus, nous souhaitons aux personnes de partout d'avoir l'opportunité d'entendre le message positif de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ, parce que nous déclarons qu'il a les réponses aux défis les plus compliqués et les plus pressants auxquels nous faisons face aujourd'hui. Je vous donne mon assurance que, quelle que soit la condition du monde et vos circonstances personnelles, vous pouvez faire face au futur avec optimisme et joie si vous avez foi au Seigneur Jésus-Christ et en son Évangile. Si vous n'êtes pas encore membre de son Église, je vous invite à venir voir si nous pouvons ajouter connaissance, perspective, espérance à votre vie d'une façon qui la rendra plus abondante, joyeuse et pleine de sens. À chaque membre de l'Église, homme, femme, enfant, je vous exprime mon amour profond pour vous, un amour qui a grandi au cours de décennies à vous rencontrer, adorer avec vous et à vous servir. Votre engagement à servir le Seigneur en faisant des alliances avec lui et en les respectant vous ouvrira la porte à toutes les bénédictions et privilèges spirituels disponibles pour les femmes, les hommes et les enfants de partout. Les ordonnances du temple et les alliances que vous y faites sont la clé pour fortifier votre vie, votre mariage et votre famille, et votre capacité à résister aux attaques de l'adversaire. Votre adoration au temple et le service que vous y rendez pour vos ancêtres vous bénira en ce que vous recevrez davantage de révélations et de paix. Est-ce que cela fortifiera votre engagement à rester sur le sentier de l'Alliance? J'encourage chacun d'entre nous à aller de l'avant avec foi en Jésus-Christ, sachant qu'il est aux commandes. C'est son œuvre. C'est son Église. Nous sommes ses serviteurs. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours continuera à aller de l'avant pour bénir toute nation, langue et peuple. Je déclare et affirme ma dévotion à Dieu, notre Père éternel, à son Fils Jésus-Christ. Je les connais. Je les aime. Et m'engage sur mon honneur à les servir et à vous servir avec tout le souffle de vie qui me reste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'est un grand privilège.
C'est un privilège pour moi d'être appelé comme conseiller du président Nelson. Je suis très heureux de participer à la direction de cette Église mondiale et d'être aux côtés du président Ehring, sous la direction du président Russell M. Nelson, qui sait que les membres du monde entier et que nos préoccupations à l'échelle mondiale fait que nous sommes très, très enthousiasmés par sa direction. Les autres membres du Collège des 12, les dirigeants locaux, généraux, le Sauveur Jésus-Christ a appelé chacun d'entre nous et il nous guidera et bénira chacun d'entre nous. Et je sais que c'est vrai au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je suis reconnaissant et heureux d'être avec le président Nelson, frère Hawkes, et avec vous, les membres de la presse. Nous admirons et nous apprécions ce que vous faites pour informer et faire rapport. J'espère. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, nous vous aiderons à voir l'Église comme nous sommes, car nous sommes déterminés à devenir. Ce que nous sommes destinés à devenir et pourquoi, c'est important pour nous et cela sera sûrement aussi pour vous. Mais ce n'est pas facile, bien qu'en tant qu'Église, nous devons travailler dur pour voir l'Église comme elle est. Et c'est même encore plus difficile pour ceux qui l'observent de l'extérieur. C'est aussi plus facile pour nous de décrire ce que nous essayons de devenir que ça l'est pour vous de croire que nous avons ces objectifs élevés en vue et pourquoi nous avons ces objectifs si élevés, que nous travaillons si dur. Et c'est plus facile à décrire par nous, mais ce n'est pas moins facile à croire. De toute façon, nous sommes reconnaissants de cette occasion de pouvoir nous rencontrer avec les représentants des médias. C'est ce que nos membres et nos missionnaires dans le monde entier aimeraient avoir. C'est la chance de communiquer ce que nous sommes, où nous allons et pourquoi ça en vaut la peine. Merci pour nous donner cette occasion sur en ce jour important de l'histoire de l'Église. Comme Frère Nelson devient président de l'Église sous la direction du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est une joie spéciale d'être à côté de ces grands hommes aujourd'hui, que j'admire et que j'aime. Merci et bienvenue à chacun de vous. Merci, frère. Nous allons maintenant entendre les questions qui viennent du monde entier et certains d'entre eux sont en ligne. Donc, vous allez venir à la fois indiquer votre nom, ce que vous représentez, poser votre question et veuillez vous asseoir.
Oui, Président, comment pensez-vous traiter de la question des lobbies LGBT? Dieu aime ses enfants et il veut qu'ils aient de la joie.
Dieu aime ses enfants et veut qu'ils aient de la joie. Ceux qui ont des difficultés à garder les commandements de Dieu, à être dignes d'entendre sa sainte présence pendant la condition mortelle, et nous espérons aider les personnes à trouver le bonheur dans cette vie pour qu'ils puissent voir leurs grandes possibilités dans le monde à venir. Dieu aime ses enfants, nous les aimons, et il y a de la place pour tout le monde, pour tous ceux qui le désirent, qui désirent se tourner vers Dieu, quels que soient les défis, pour être dans l'Église avec nous.
Le principe que vous venez d'énoncer, que le Seigneur aime tous ses enfants, mais en même temps, dans l'amour que le Seigneur a pour ses enfants, il nous a donné des commandements et il nous a donné un plan pour atteindre les bénédictions les plus élevées qu'il réserve à ses enfants. Et en tant que dirigeants de l'Église, nous avons la responsabilité d'enseigner l'amour et aussi d'enseigner les commandements de Dieu et de la destination très élevée que le Seigneur a prévue pour ses enfants.
Nous avons ici l'équilibre entre l'amour du Seigneur et la loi ou les commandements.
Merci, frère. Notre prochaine question vient d'un représentant des médias du Mexique, Antonio Gutiérrez.
Un journaliste qui vient du Mexique. Nous vivons dans le monde. Dans ces temps de crise économique et sociale au Mexique et dans d'autres parties du monde, quelles sont les difficultés que l'Église rencontre et quels sont vos plans pour y répondre?
Merci pour cette question. Nous éprouvons un amour tout spécial pour les gens du Mexique, comme nous en avons pour les gens de tous les pays. Et nos cœurs se tournent vers les victimes de désastres naturels, les tremblements de terre et les ouragans, les tornades dans différents endroits du monde. Cela va faire partie de la vie que nous connaissons, des dangers tout autour de nous. Comment est-ce qu'on fait? La chose la plus importante est de préparer notre peuple en ayant la foi en Dieu, la connaissance qu'il a un plan pour nous et que ce plan va nous immuniser de beaucoup de l'apathie sociale et des défis qui pourraient être évités. Et que, un jour, à la fin de notre séjour mortel, nous pourrons être réunis avec son fils bien-aimé et avec nos familles.
Puis-je ajouter qu'à cause de la proximité du Mexique avec les États-Unis et du service missionnaire qui s'y fait, beaucoup de nos dirigeants parlent espagnol. Nous avons énormément de dirigeants de l'Église, des hommes et des femmes, qui ont été au Mexique. On y connaît les dirigeants, on a presque une relation familiale avec le Mexique.
Et pour moi, je pense du bien de toutes ces personnes, mais aussi dans le monde entier, pour des personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Aucun pays n'est immunisé et nous aimons tout le monde.
Alors, quand on parle de ces désastres naturels et de tous ces défis, nous avons 700 000 membres que ma femme Christine et moi-même avons visité il y a 2 ans. Les Philippines ont presque tous les désastres naturels que les gens puissent connaître. Et il y a même des éruptions volcaniques en ce moment. Tout cela souligne le point que nos soucis vont vers tous les gens du monde, et particulièrement, évidemment, pour nos propres membres pour lesquels nous avons une responsabilité particulière.
Nous les avons vus dans le monde entier. Une des choses que nous faisons est que les saints des derniers jours, nous leur demandons d'aimer leurs voisins.
Absolument.
Et je me suis trouvé dans des situations où on voit des étrangers qui font des centaines de kilomètres pour prendre soin de personnes qui traversent des difficultés. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, mais nous essayons de tout notre cœur de le faire. Nous avons le désir de servir du mieux que nous pouvons.
On peut parler même de ces chemises jaunes, là, des mains serviables.
Oui, tout à fait.
Ces t-shirts que nous portons pour venir en aide aux différentes personnes qui en ont besoin. Merci, frère.
Donc, sous président Monson, nous avons vu l'équilibre entre les gens avec la baisse de l'âge pour partir en mission. Mais les dirigeants de l'Église de Jésus-Christ sont partis en général des hommes blancs. Comment inclure les personnes internationales dans les décisions des dirigeants?
C'est une très bonne question, Peggy. J'espère que l'on peut me pardonner si je dis que j'ai dans mon cœur un bon sentiment pour vous. Je sais que vous êtes une mère. Je connais votre père, votre mère. Je connais tous les quatre grands-parents et je connais votre famille, vos enfants missionnaires qui ont fait un service, ont rendu un service formidable. Peggy a beaucoup d'importance pour moi. C'était quoi votre question? Oui, je me souviens. Nous sommes blancs. Nous sommes américains. Regardez les collèges de 70. Regardez nos dirigeants locaux. Où que nous allions, la direction de l'Église provient des communautés locales. Et ce sont eux les vrais dirigeants. Les 12 et les 70 ne représentent pas une assemblée quelconque. Mais comment pourrions-nous gouverner l'Église avec des représentants de 180 pays? C'est le Seigneur qui est aux commandes de cette Église. Il serait difficile de la diriger avec des gens éloignés de partout. On aimerait bien sûr avoir plus de variété. On répond aux appels que le Seigneur nous donne. Personne nous a demandé d'être à la place où nous sommes là. Il faut que je vous dise ce qui m'est arrivé quand j'ai été appelé il y a 34 ans dans le Collège des 12. Je faisais partie du conseil d'administration d'une entreprise commerciale. Une personne qui n'était pas membre de notre église, qui faisait partie de ce conseil. Et ils m'ont dit, mais je ne comprends pas votre église. Je ne comprends pas votre église, ils vivent de la dîme des gens, et puis ensuite ils prennent un des meilleurs payeurs de dîme pour devenir dirigeant. On ne pense pas comme les hommes pensent, à la manière des hommes.
Je pense que ça vaut également la peine de se souvenir. Que lorsque je m'adresse aux jeunes, je me souviens qu'il est dangereux de mettre des étiquettes aux personnes en fonction de la nationalité, de l'origine géographique, ethnique, des circonstances ou quoi que ce soit. Parce que la chose la plus importante sur nous, c'est que nous sommes tous des enfants de Dieu. Si nous gardons cela à l'esprit, nous allons avoir plus de facilité à communiquer les uns avec les autres et éviter un système discriminateur, comme si Dieu donne ses bénédictions et sa bonté et son amour, il ne le fait pas sur la base de quotas.
Et les femmes alors?
Les femmes, je les aime. Et j'ai un cœur rempli d'amour pour les femmes. Je suis le père de 9 filles. Et je me suis souvent demandé comment est-ce que j'ai telle bénédiction d'avoir des filles. Où sont les garçons qui auraient pu être missionnaires? Maintenant, avec un peu plus de maturité dans ma vie, c'est parce que ces filles ont une femme formidable et ces filles sont les mères de leurs propres enfants qui enseignent et les enseignent. Toutes mes filles sont maintenant des grands-mères. Ils ont des enfants forts dans leur foi, dans leur capacité, et ils continuent à faire la même œuvre que leur mère. Nous avons des femmes dans nos conseils, nous avons des femmes qui administrent les ordonnances dans les temples, nous avons des femmes qui président les auxiliaires. Nous dépendons de ce qu'elles pensent et ressentent. Et j'en ai parlé dans une conférence générale il y a peu de temps. En demandant aux sœurs de prendre leur place, nous avons besoin d'entendre ce qu'elles pensent et de leur participation.
Monsieur le Président, nous avons besoin de l'influence. On me félicite pour mes enfants. Et je sais qui a fait cela. Tout dépend de ce qui importe le plus. Mais il n'y a aucune question dans mon esprit en ce qui concerne les femmes. Elles sont la source de la plupart de la force que nous voyons. J'ai 4 fils. Ils ont tous été évêques. Et c'est à cause de leur mère. Je pense que l'idée d'une position ou d'un poste ou d'être reconnu, et je pense que ça serait un souci pour eux si les femmes étaient reconnues de cette façon. Mais en termes d'influence, il n'y a pas de plus grande influence que celle d'une femme ou que celle des femmes de l'Église. Et je dis cela alors que ma femme n'est pas là. Mais je pense que la plupart des bonnes choses que j'ai obtenues, c'est grâce à ma femme.
Dans les Doctrines et Alliances, il y a ce verset qui dit « Avant la fondation du monde, Les hommes ont été créés pour s'occuper des fils et des filles de Dieu, et en le faisant, ils glorifient Dieu. Une question suivante.
Tad Walsh with the Deseret News. Sorry.
Désolé. Bonjour. La plupart des recherches montrent que la plupart des gens dans le monde croient en Dieu et croient dans les cieux et pensent que la prière est importante. Et beaucoup de gens s'identifient avec leur religion. Mais il y a des recherches qui montrent que un ou trois des millénaires ne croient pas en Dieu, ne sont pas religieux. Alors comment vous faites pour faire que des jeunes restent dans l'Église et continuent de croire en Dieu?
La meilleure façon de le faire, c'est de comprendre vraiment ce que veut dire « Je suis un enfant de Dieu » quand on le chante. Comme chirurgien, je me suis émerveillé à la structure et la fonction du corps humain qui peut se défendre lui-même, qui peut se réparer, s'auto-réparer. Les aider à apprécier qu'ils ont des yeux qui voient, des mains qui sentent. Ce n'est pas un accident, c'est un don de leur Créateur. Je commencerai là, les aider à comprendre comme la vie est précieuse, ainsi que leur capacité d'apprendre et d'apprécier l'amour, le calme, l'expérience de la vie, et que tout cela vient de Dieu. Le Seigneur peut nous reprendre quand il le veut, mais il nous permet de vivre cette période de notre existence où nous pouvons choisir, agir, et travailler à ce que nous allons devenir.
Je voudrais ajouter qu'on lit beaucoup dans la presse. Les gens parlent des milléniaux et les décrivent de façon telle que, comme s'ils avaient beaucoup de doutes, qu'ils s'éloignent des idéaux que nous avons, ou ce que les jeunes peuvent être. Mais les milléniaux rencontrent de graves difficultés. Et je vais dans l'église. Et je peux vous le dire, je ne sais pas ce que la vie était pour vous quand vous étiez missionnaire. Il y en a 50 dans chaque mission. Il y a un pouvoir qui vient de cette génération de millénaires. Ils sont remarquables. Ils ont plus de foi. Je pensais que j'avais de la foi quand j'étais jeune, quand j'avais leur âge, mais je vois qu'ils en ont beaucoup. Maintenant, des jeunes qui sont dans leur vingtaine, qui ont une foi solide, qui sont désireux de faire tout ce qu'ils peuvent pour se servir les uns les autres. Et je pense que c'est la meilleure des époques pour les milléniaux. Je sais que certaines personnes pensent autrement. Comment nous allons les retenir? La question serait plutôt comment nous n'allons pas être en arrière d'eux.
C'est aussi une période difficile pour le mariage. Les jeunes gens sont confrontés aux mêmes problèmes. Mais les jeunes gens et les jeunes filles sont plus forts lorsqu'ils se marient et lorsqu'ils ont le genre de compagne que le Seigneur a prévu pour eux. Et à ce moment-là, ils peuvent avancer en se fortifiant les uns les autres. Et beaucoup des problèmes qui sont typiques des millénaires disparaissent.
Et je pense particulièrement les jeunes hommes.
Dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme, ni la femme sans l'homme.
Le partenariat, c'est le secret. Un plus un, c'est plus que deux. Un homme et une femme peuvent faire davantage ensemble qu'ils ne pourraient le faire tout seuls.
Notre prochaine question vient du Brésil. Et par téléphone.
pleasure to talk with you. Now, Brazil is a nation where the church is rising.
C'est un plaisir de vous parler. Le Brésil est une grande nation où l'Église est forte. Que pensez-vous ce que sera le futur de l'Église, l'avenir de l'Église au Brésil?
L'Église au Brésil est une serre qui fournit des dirigeants à l'Église pour le monde entier. En parlant du président cette nation, c'est intéressant de voir la force que produit le Brésil. Même si le pays traverse des difficultés, des problèmes sociaux que l'on rencontre dans d'autres pays, mais ce que nous voyons, c'est une force, un pouvoir qui vient du Brésil, ainsi que du Mexique et du Pérou. Ces pays ont plus de 100 pieux. Ils ont démarré à presque rien. Je me rappelle quand James C. Faust était missionnaire, ils avaient très peu de succès dans ces pays. Et que l'année où je suis né, il n'y avait pas de membres de l'Église en Amérique du Sud. Alors, le Seigneur a fait croître son Église dans tous les pays du monde. Dans pratiquement tous les pays, il y a des membres de l'Église. Le Brésil, le Mexique, le Pérou montrent un modèle qu'on en voit vu aussi aux États-Unis, mais qui se reproduit maintenant au Ghana, au Congo, en Afrique du Sud, et dans les pays d'Amérique du Sud, et même dans les pays d'Asie, ça prend du temps.
Thank you. Our next question from Sam.
Prochaine question.
Good morning, Sam Penrod with KSL TV. Many
Latter-day Saints de CCTV, de nombreux saints des derniers jours en difficulté. Ils pouvaient avoir des relations avec le président d'église, se sentir proche de lui quand ils étaient adolescents. Est-ce que vous avez un message pour la prochaine génération de jeunes de l'Église face aux difficultés qu'ils rencontrent maintenant? Et qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre de vous en tant que président de l'Église?
Merci, Sam. C'est un bon ami, Sam. Une fois, nous étions à Ephraim ensemble, qui était le festival de Scandinave, et nous y avons regardé les tombes de nos proches, de nos parents, et aussi les maisons qu'ils habitaient. Je pense que vous avez dit, comment la jeunesse peut suivre un vieux? Seulement s'il court, a-t-il répondu le journaliste. Je voudrais parler de l'âge, c'est une bonne chose. J'espère que vous vivrez pour être de vieilles personnes. Une personne instruite n'arrête jamais d'apprendre. Depuis les dernières conférences d'octobre, mon épouse Wendy et moi, nous avons été dans 10 pays, sur 3 continents différents. Nous avons rencontré des rois, des dirigeants, je veux dire des magistrats et des dirigeants de gouvernement. Donc, je suis plus maintenant qu'il y a 6 mois. Si vous ajoutez le nombre des années, Elder Oaks et Frère Ryring également, et les autres apôtres, vous parlez de 90 ans. Ça peut aider les jeunes de l'Église à comprendre des choses. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher sur le bord du chemin ce qui les rendra heureux. Ils peuvent le trouver directement dans l'Église avec des personnes d'expérience.
C'est un grand message pour la jeunesse. Et on parle de l'expérience parlant de vous. Ah, combien d'arrière-petits-enfants avez-vous? 116, il y a 4 jours. Je connais tous leurs noms, leurs anniversaires. Tout ça, c'est sur l'ordinateur. Je pense que ça vaut la peine aussi, quand on parle de ce sujet, je peux témoigner en tant que témoin expert que la jeunesse et la force du président Russell Nelson pendant 34 ans au sein du Collège des 12. Je l'ai vu pratiquer. Éviter l'ascenseur et descendre les escaliers et à une grande vitesse. Et j'ai eu du mal à le suivre toutes ces années. Ne sous-estimez pas la vitalité et la connaissance et la capacité d'avoir quelque chose en commun avec les jeunes, même dans les domaines physiques, comme le ski. Pour un homme qui a 93 ans,
j'aimerais ajouter quelque chose. Il me semble, si je pensais, comme nous montrons un exemple pour les jeunes, je pense que de nombreux jeunes sont découragés et se sentent débordés. Mais votre optimisme seul montre un exemple pour les aider à surmonter toutes sortes de difficultés. Lorsque nous sommes rencontrés récemment, nous avons assisté à la mise à part de Frère Nelson en tant que président d'Église. Il a dit que c'était... Nous ne vivrons pas encore très longtemps. Nous ne vivrons pas cela encore, parce qu'il a annoncé. Il a beaucoup d'enthousiasme. Les jeunes de l'Église peuvent recevoir beaucoup de bénédictions. Allons de l'avant. Et je pense que si... Et ces sermons, ces enseignements ne seront pas aussi importants pour eux que son exemple. La dernière question. Channel 2 à Salt Lake. Donc j'ai la dernière question. La voici. En ce qui concerne vos remarques préliminaires.
There are those out there that are leaving the church. There's apostasy that's rising in the church because some of it has to do with early church leadership and people finding out that.
Il y a des dirigeants d'église. Certaines personnes pensent que l'église n'est pas aussi transparente qu'elle le pourrait. Que pensez-vous faire? Quel message pensez-vous envoyer des membres de l'Église qui ont des difficultés avec les premiers dirigeants de l'Église? Et il y a aussi une armée de missionnaires dans le monde. Et la croissance de l'Église n'est pas là où vous voudriez qu'elle soit.
Merci pour votre question. Je me suis trouvé à Houston il n'y a pas longtemps avec votre frère Art, qui me disait quel merveilleux vous êtes. Je vous complimente. Tous les membres ont besoin de connaître la différence entre ce qui est la doctrine, ce qui est humain. Nous avons les deux éléments avec lesquels nous devons travailler. Si vous pensez que les jeunes ont un problème, pensez à la difficulté que notre Père Céleste a comme difficulté. Il a travaillé avec des êtres humains depuis la naissance d'Adam et chacun a eu des difficultés, sauf son Fils et bien-aimé Jésus-Christ. Donc permettez un dirigeant de l'Église de faire parfois des erreurs et vous aurez aussi, vous, l'occasion d'en faire. Ne soyez pas offensé par ce qui aurait pu être dit, ce qui a pu se passer. Mais assurez-vous que vous êtes en bonne position avec votre Père Céleste qui veut que vous soyez heureux. Et la façon d'être heureux, c'est de garder ses commandements. Le mot commandement est parfois mécompris. On le perçoit comme une restriction, comme une cellule de prison. Au contraire, garder la parole de sagesse vous permettra de ne pas vous fatiguer et de marcher sans faiblir. Et vous occupez de vos enfants. Alors que les commandements sont là pour nous libérer de l'esclavage du péché, le chemin vers la joie, c'est de garder les commandements et de rester sur le sentier de l'Alliance. Si vous vous en êtes écarté, retrouvez-en le chemin.
Je pense que c'est important, lorsqu'on se penche sur l'histoire de l'Église, que j'ai étudié toute ma vie d'adulte, c'est très réconfortant pour moi de savoir que je n'ai pas à prendre les déclarations d'un dirigeant en particulier comme doctrine et attente de l'Église. Nous ne croyons pas dans l'infaillibilité des dirigeants. L'organisation de l'Église est bien en place. Il y a de nombreux prophètes, voyants et révélateurs. Ici, vous avez le Collège des Douze. Et nous allons travailler en coopération étroite avec eux pour remplir nos responsabilités. Et dans les conseils, chacun avec ses prières individuelles envers le Seigneur, nous, en tant que serviteurs du Seigneur, nous sommes ensemble pour définir la doctrine de l'Église et la direction de l'Église. Mais c'est en conseil que nous déterminons la direction de l'Église. Et ce qui est appelé dans le monde la politique de l'Église et les doctrines et les pratiques. Il y a des directions temporaires, comme l'âge du service missionnaire, mais cela vient et le produit de réunions en conseil. Je voudrais rappeler à ceux qui s'inquiètent que vous demandiez de manière appropriée que lorsqu'on parle de transparence, grâce à l'action de ces conseils, nous avons publié par exemple les papiers Joseph Smith. Et sur mon bureau se trouvent ces publications. Et ils occupent un espace qui fait un mètre d'épaisseur. Et ça continue. Et nous travaillons en toute transparence pour publier tous les papiers Joseph Smith. Et tous les documents qui sont sortis du fondement de cette Église rétablie.
Vous n'aimeriez pas que quelqu'un parcourt tout ce que vous avez publié pour le disséquer 100 ans plus tard, sans que les gens qui le lisent alors connaissent le contexte dans lequel vous avez écrit? Plus je vis et plus je chéris les accomplissements du prophète Joseph.
Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette conférence de presse. Nous sommes reconnaissants pour le temps que vous y avez consacré. Vous pouvez trouver d'autres informations sur nos dirigeants. Sur moment.org. Nous invitons maintenant la famille du président Nelson à se joindre à nous.